Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Christelle Yesso.
Bonjour et bienvenue à ce journal. Tout de suite, les titres. Fin du projet Génov, le projet jeune engagé pour la non-violence, est à son terme. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue samedi 9 décembre à Yamoussoukro. Plus de détails dans ce journal. Et pour s'imprégner du mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, était en visite au centre opérationnel de Trècheville. Vous en saurez plus dans cette édition. Et en Sierra Leone, l'ex-président Koroma, considéré comme l'un des principaux suspects dans la tentative de coup d'État dans le pays. Nous ouvrons ce journal avec le projet Génov, projet jeune engagé pour la non-violence qui est à son terme. Ce projet qui visait à sensibiliser les jeunes et plus particulièrement les élèves sur les thématiques de la drogue, la non-violence, de la cohésion sociale et de la paix, s'est clôturé par une cérémonie samedi 9 décembre à Yamoussoukro. Le point avec Émile Yao.
La présidente de l'Association des anciens boursiers ivoiriens de l'État américain, Malika Kamara, est revenue au cours de cette cérémonie de clôture sur les activités majeures menées dans le cadre de ce projet Génov, jeune engagé pour la non-violence.
À l'occasion de ce projet, nous avons eu, dans les mois de mars, avril, des phases de sensibilisation et de formation, et nous avons enregistré des émissions radio avec les élèves, les clubs de paix que vous êtes. Nous avons également déployer une campagne digitale sur les réseaux sociaux et renforcer vos capacités de consolidation de la paix et également dans la prévention des conflits.
Le projet est à son terme au cours de ce mois de décembre 2023 et la présidente Malika Kamara souhaite que ses acquis soient préservés.
Ce projet vise à transformer positivement les jeunes afin qu'ils deviennent des acteurs de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix dans les lycées et collèges. Alors, à la clôture de ce projet, vraiment, nous espérons que nous pourrons en tout cas compter sur vous.
Principale cible de ce projet, les élèves n'espèrent pas, moi non plus.
Mon père, Loketa Angegrâce Priscille. Moi, je voulais dire à mes amis de prendre cette sensibilisation à cœur et de les mettre en œuvre. Car nous pouvons lutter contre la violence tout en étant disciplinés et sages.
Exécuté sur une période d'un an, le projet Génov est financé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et du côté de l'éducation nationale, l'ONG Aube Nouvelle lance l'opération Ouvrez les cahiers qui débutera effectivement le 18 décembre sur toute l'étendue du territoire national. À travers cette campagne, Dr Ongwaema, vice-présidente de l'ONG, invite les parents à porter un regard vigilant sur l'éducation de leurs enfants. On l'écoute.
On doit s'attendre à ce que les parents s'impliquent totalement dans l'éducation de leurs enfants, aussi bien l'éducation sociale que la scolarité. Il faut que les parents apprennent à ouvrir les cahiers des enfants, apprennent à ouvrir les livres des enfants, s'intéresser à ce que leurs enfants font à l'école et les suivre pour être sûr que les enfants travaillent afin qu'on puisse leur garantir un avenir meilleur. C'est surtout ça que tout le monde s'implique, les parents, mais également les frères, les sœurs, toutes les personnes qui vivent dans les foyers, la communauté, puisque l'éducation est communautaire. Donc on s'attend à ce que tout le monde s'implique dans cette opération qui va se dérouler le lundi 18 décembre de 18h à 20h. Donc 2 heures vont être consacrées à nos enfants. Les parents vont ouvrir symboliquement les cahiers et les livres des enfants pour voir ce que les enfants ont fait à l'école le jour même, les leçons qu'ils ont à apprendre, les exercices qu'ils ont à faire et ils vont les aider. Ils vont participer à leurs devoirs. Ensuite, les parents pourront également se familiariser avec l'école, aller voir les maîtres d'école le lendemain, par exemple, aller voir un peu ce que leur enfant fait à l'école, voir leur comportement, de l'assiduité, aider l'enfant à se remettre sur le droit chemin, lui donner le goût du travail, le goût de l'apprentissage et venir prendre l'habitude aussi de venir toujours vers les parents pour pouvoir travailler.
C'était Dr Ongwaema, vice-présidente de l'ONG Aube Nouvelle, dans des propos recueillis par Jean-Mélène Bitti. Et toujours en éducation, la représentation de l'UNESCO en Côte d'Ivoire a organisé samedi 9 décembre un panel sur le thème « La communication parents-enfants ». Cette rencontre qui s'est tenue au sein de l'Université de San Pedro fait partie d'un vaste projet de l'UNESCO qui vise à favoriser l'implication des jeunes autour de discours positifs et intergénérationnels. Le compte-rendu de Didier Blé.
Y a-t-il une différence entre l'enfant d'hier et celui d'aujourd'hui? L'adolescent doit savoir qui il est, ou bien son parent même doit savoir qui est l'adolescent.
Donner des conseils sur l'utilisation efficiente des réseaux sociaux. Mais même ça, l'éducation des enfants, je m'en remets à Dieu.
L'adolescent a ses enjeux, tels que l'identité et la sexualité.
Quelles sont les raisons qui freinent la communication parent-enfant? Quelles en sont les conséquences? L'impact des réseaux sociaux, les sujets sensibles, autant de questions débattues par les panélistes, parmi lesquels Rosemonde Groga de l'AIBF, Guillaume Bamba du Conseil National des Jeunes et Anzata Ouattara écrivaine. Pour leur épanouissement, les jeunes ont besoin de plus d'informations et d'éducation sur leur santé et leur bien-être. Mam Omar Diop, représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire.
Le présent panel était organisé afin de faciliter le dialogue intergénérationnel qui a pour objectif de permettre aux parents et aux plus jeunes de se parler, trouver ensemble des solutions pour la santé et leur avenir.
Échanger avec les jeunes aide à changer les mentalités. Professeur Ouattara Karamoko, vice-président de l'Université de San Pedro.
Le dialogue intergénérationnel n'est pas simplement une conversation entre jeunes et aînés, mais plutôt un échange dynamique où chacun peut partager ses connaissances, ses rêves et ses préoccupations.
Ce cadre d'échange sur la durée favorisera l'implication et l'engagement des jeunes filles et garçons dans l'action publique en santé sexuelle et reproductive.
Intéressons-nous à présent à la vidéo-verbalisation. Pour s'imprégner du mode de fonctionnement de cette technologie, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, était en visite au centre opérationnel de Treschwil, mardi 12 décembre. La mission était conduite par le vice-président de l'institution, Sekaseka Joseph. Plus de détails avec Junior Cardin.
Les accidents de la circulation routière ont occasionné en 2022 1051 tués. Pour faire face à ce fléau, le gouvernement a pris certaines dispositions selon Diomand Koné, directeur de cabinet du ministre des Transports.
La vidéo-verbalisation et récemment le permis à point donnent déjà des résultats plus qu'encourageants. Malgré cet état de fait, il s'agit de poursuivre et d'intensifier les actions pour agir durablement sur les comportements des usagers qui représentent plus de 90% des causes d'accidents.
Le directeur général de Kipux Afrique, partenaire technique de la vidéo-verbalisation a présenté le projet aux hôtes Ibrahim Akone.
Ce projet interactif avec tous les canaux qui sont mis à disposition travaille à la transparence parce qu'aujourd'hui, toutes les activités de l'ensemble des partenaires, y compris de la police et de la gendarmerie, sont tracées. Également à sensibiliser, à mobiliser des ressources non fiscales qui peuvent contribuer au niveau de l'État.
Agissant sur la vie des Ivoiriens au quotidien, le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est engagé donc à effectuer cette visite d'imprégnation pour comprendre le mécanisme et y apporter son appui. Sekaseka Joseph, vice-président.
Cette belle visite sur le terrain nous a permis de comprendre le sens et l'importance de la vidéo-verbalisation. Cette expérience permettra d'enrichir nos travaux à l'effet de produire des avis pertinents et de contribuer à l'élaboration de la politique publique de notre pays.
Le directeur général de Kipux Afrique a révélé que moins de 30% de véhicules passent la visite technique en Côte d'Ivoire.
Et en sport, en prélude à la CAN, des experts en technique nucléaire ont tenu lundi 4 décembre un atelier de renforcement des capacités, mettant l'accent sur la réponse aux actes criminels non autorisés qui impliquent les substances nucléaires et radioactives. Objectif, améliorer la sécurité nucléaire des stades et autres lieux stratégiques contre les menaces terroristes nucléaires et son système pour les événements publics majeurs lors de cette CAN. On fait le point avec Paul Bénédicte.
Un atelier avant ce rendez-vous s'est tenu en février dernier pour une première formation relative à l'entretien des équipements. Sur cette seconde phase, Cabo Robert, experte de l'agence, à la traduction de ses propos.
Cet atelier va mettre l'accent sur la réponse aux actes criminels non autorisés qui impliquent les substances nucléaires et radioactives, mettre l'accent sur la détection et la réponse, la capacité dont nous aurons besoin pour améliorer le système avant la Coupe d'Afrique des Nations. Cette menace majeure va donc reposer dans vos mains.
L'autorité de radioprotection de sécurité et sécurité nucléaire annonce être prête à agir. Kwame Alphonse, son président.
Notre devoir est de renforcer notre capacité de réaction sur les principaux lieux et autres emplacements stratégiques. Ce atelier vient donc à point nommé pour nous apprendre à coordonner efficacement les ressources et les experts nécessaires pour prévenir, détecter et répondre à tout incident impliquant des matières nucléaires.
Ngoron Aimé, directeur exécutif adjoint du COCAN.
Que cette compétition soit sécurisée. Aspect important, la surveillance des matières radioactives, de tout ce qui est ionisé qui pourrait affecter notre compétition.
Rappelons que la CAN se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.
Également présent à cet événement, Ngoron Aimé, directeur exécutif adjoint du COCAN, a relevé l'importance de cet atelier en insistant sur les chiffres enregistrés pour cette CAN. Suivons-le dans cet élément.
La CAF organise cette compétition. Dans 5 villes hautes, à Boaké, vous avez le stade de la paix, 40 000 places. À Ebimpe, le stade Alassane Ouattara, 60 000 places. À Abidjan, toujours, le stade Félix Houphouët-Boigny, 29 700 places. À San Pedro, le stade Laurent Pokou, 20 000 places. À Korogo, le stade Amadou Gokoulibaly, 20 000 places. Yamoussoukro, le stade Charles Konan Banny, de 20 000 places. La CAN 2023, c'est aussi 6 fan zones. Ce sont des petits stades qui vont accueillir du monde entre 5 000 et 15 000 personnes qui vont visiter les fan zones. C'est 24 terrains d'entraînement, plus d'une centaine d'hôtels et de résidences. C'est plus de 2 000 journalistes, plus d'un million 500 000 spectateurs qui vont être dans nos stades sur 30 jours. Chers experts, chères forces spéciales, c'est l'occasion d'avoir de la visibilité. Parce que la CAN, c'est aussi 90 pays pour la couverture télévisée, 60 broadcasts diffuseurs, une couverture digitale de près de 2 milliards d'impressions, près de 555 millions de vues vidéo sur toutes les plateformes. Alors imaginez un seul instant que l'une de vos substances se retrouve quelque part. Regardez l'impact que ça pourrait avoir d'irradier autant de personnes. C'est la raison pour laquelle le COCAN s'est engagé résolument avec l'appui de l'AIEA pour sécuriser en matière nucléaire cette compétition.
Vous venez d'écouter Ngoron Aimé, directeur exécutif adjoint du COCAN. Il était au micro de Paul-Bénédicte Boulou. Ouvrons une page santé dans ce journal. Il s'est tenu à Abidjan du 7 au 8 décembre la première édition de la conférence régionale sur l'intégration des services de santé mentale et soutien psychosocial dans les soins primaires, communautaires et humanitaires en Afrique de l'Ouest à Abidjan. Ce rendez-vous visait à rencontrer les acteurs d'autres pays pour s'imprégner de leurs expériences en matière de santé mentale. Des détails avec Jean-Claude Mabéa.
Docteur Kadia Adjoba, représentante du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a fait l'état des lieux de la santé mentale en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, au niveau de la santé mentale, on a très peu de ressources qualifiées pour la prise en charge de la santé mentale de nos populations. On a aussi très peu de paquets d'interventions intégrés dans nos activités de routine. La santé mentale a très peu de place dans la prise en compte des différents aspects des interventions dans nos stratégies et dans nos politiques.
C'est donc tout le sens de cette rencontre d'Abidjan, selon le directeur coordonnateur du programme national de la santé mentale, professeur Kwame Dar.
Et donc il fallait rencontrer les autres acteurs des autres pays pour voir quel est le modèle d'intégration en matière de services de santé mentale, les modèles qui marchent, les modèles à améliorer pour que ces modèles soient adaptés à nos contextes africains.
Cette conférence est soutenue par l'ONG Médecins Sans Frontières. Docteur Youssoufou Salah, son directeur général, est revenu sur l'accompagnement de son organisation dans le cadre de ce projet.
Nous travaillons avec le ministère de la Santé, nous réfléchissons ensemble sur les défis et le gap sur l'apport que Médecins Sans Frontières pourrait apporter dans certains domaines, notamment la santé mentale. Donc nous privilégions la discussion, la concertation de la communauté dans la conduite des projets et savoir que ces projets c'est pour eux et c'est ensemble qu'on peut avancer.
À signaler que les troubles mentaux touchent aujourd'hui plus de 10% des populations en Afrique, selon l'OMS.
Or hors de nos frontières, en Sierra Leone, l'ancien président Ernest Bai Koroma a de nouveau été entendu par la police de Freetown dans l'enquête sur la tentative de coup d'État du 26 novembre. Ses anciens et actuels gardes sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque d'au moins une armurerie et d'une prison le mois dernier. Ernest Koroma est désormais l'un des principaux suspects dans ces troubles. En toile de fond, une rivalité politique l'oppose à l'actuel chef de l'État, Julius Maada Bio. Et au Zimbabwe, la sécheresse prolongée tue les éléphants du parc national de Wange, le plus grand parc naturel du pays, qui en abrite 45 000. Au moins 100 éléphants sont morts d'épuisement à cause de la raréfaction de l'eau et de la nourriture due au retour du phénomène El Niño. À présent, nous faisons place à l'invité de la rédaction. Du 13 au 15 décembre se tiendra à Yamoussoukro un colloque international transdisciplinaire en vue de célébrer les anciens du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et ceux de l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain. Pour en savoir plus sur cet événement, Soro Adams a reçu pour vous comme invité de la rédaction professeur Diabaté Alassane, maître de conférence au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qu'on écoute.
Bonjour professeur Diabaté Alassane.
Bonjour.
Ce colloque international transdisciplinaire, pour faire quoi exactement?
Pour rendre hommage d'abord en la mémoire des anciens chercheurs et chercheurs décédé au département d'histoire, et c'est aussi un hommage aux maîtres, à nos maîtres, nous autres, à la retraite après de bons et loyaux services. Il s'agit donc d'une cérémonie qui va honorer nos aînés, des maîtres qui ont mérité du département et de la nation pour avoir formé plusieurs générations d'étudiants. Donc, voici en fait le but de ce colloque-là.
Et combien sont-ils? Ceux qui seront célébrés, les anciens du département d'histoire de l'université.
Ils sont environ une vingtaine, des plus illustres aux plus anonymes, c'est-à-dire, je cite pêle-mêle, le professeur Ekanza, le professeur Jean-Noël Loukou, la professeure Henriette Diabaté, le professeur Ouattara Thiona, et j'en passe. Et puis pour ceux qui sont décédés, j'allais dire à la tâche pratiquement, puisqu'ils n'étaient pas à la retraite, il y a le professeur Kwasi Yao, il y a le professeur Toupa, etc. Voilà, donc c'est ceux-là qui feront l'objet des célébrations, c'est-à-dire en réalité des plus illustres aux plus anonymes. C'est pour nous, nous les plus jeunes, un devoir de reconnaissance à leur égard. C'est pour ça justement que ce colloque a lieu.
Mais qui participera, qui prendra part à ce colloque de Yamoussoukro?
Ce colloque de Yamoussoukro verra la participation d'enseignants-chercheurs venus de divers horizons, d'abord en Côte d'Ivoire, de toutes les universités, ensuite d'universités africaines, du Togo, de la Guinée, du Sénégal, etc. Donc au total, à peu près 100 participants qui vont justement être plus ou moins impliqués dans ce colloque-là.
Mais pourquoi ce thème « Ville et gouvernance à travers les époques » ?
Ce thème « Ville et gouvernance à travers les époques » pour aborder, j'allais dire, les problématiques, les questions en rapport avec l'évolution des villes qui est aujourd'hui. C'est ainsi que, autour de 8 axes, non exhaustifs bien sûr, ce colloque va se tenir. Et le premier axe a trait aux relations interpersonnelles. Le second va aborder les rapports entre les communautés dans la ville. Le troisième, la décentralisation. Le quatrième, les régimes politiques. Le cinquième, la gouvernance et les questions de corruption. Le sixième, la sécurité et l'insécurité. Le septième, les questions alimentaires. Et puis le huitième, ce seront des témoignages. Ce sera l'occasion pour des collègues de faire des témoignages. Voilà.
Témoignages sur quoi?
Témoignages sur la vie, justement, de nos maîtres.
Mais, professeur Diabaté Alassane,
oui?
Où réside le lien entre, oui, l'hommage à ses anciens et le thème retenu, ville et gouvernance.
En fait, c'est d'abord un hommage aux anciens, comme je l'ai dit, mais puisque nous sommes dans un cadre scientifique, et le lien qu'on trouve pour rendre hommage, c'est justement un colloque, et on a délibérément choisi ce thème-là pour rendre cet hommage. Donc au total, à peu près 81 communications, et pour à peu près 100 participants qui vont justement être plus ou moins impliqués dans ce colloque-là. Voilà.
Je vous remercie, professeur Diabaté Alassane.
Merci beaucoup, M. Soro. Merci bien.
Je rappelle que vous êtes
maître de conférence au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny.
C'est ici que prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Fin du projet Genov, le projet Jeune engagé pour la non-violence est à son terme. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue samedi 9 décembre à Yamoussoukro. Et pour s'imprégner du mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, était en visite au centre opérationnel de Trècheville. En Sierra Leone, l'ex-président Koroma, considéré comme l'un des principaux suspects dans la tentative de coup d'État dans le pays. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez juste après ce journal la revue de presse avec Jean-Claude Koumi.
Bonjour à tous. La réaction de la présidence du PDC-RDA ne s'est pas fait attendre. Après la conférence de presse du secrétaire exécutif en chef de ce parti le lundi dernier, hier mardi, le porte-parole du doyen des partis ivoiriens était lui aussi face à la presse. Et à cette occasion,